en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour et merci d'avoir choisi Canal Académie. Cette émission en habit vert est consacrée à un indianiste célèbre, Alfred Fouché, qui fut élu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1928. Si Alfred Fouché a parcouru en tous sens l'Inde pour y répertorier d'innombrables trésors de l'Inde bouddhique, il conduisit aussi une mission archéologique de 1923 à 1925 à Bactre, cette ville mythique de la Bactriane appelée la cité d'Alexandre et qui se trouve dans l'actuel Afghanistan. Et pour évoquer la figure d'Alfred Fouché à Bactre, j'ai le plaisir de recevoir Paul Bernard, helléniste de renom, élu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres le 31 janvier 1992, au fauteuil d'André Chastel. Monsieur Bernard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Et si quelqu'un connaît bien cette mythique cité de Bactre, c'est bien vous. Vous y êtes allé, je crois, de nombreuses fois et vous avez énormément fouillé en Afghanistan. Toute votre carrière
Pratiquement. Enfin, j'ai commencé ma carrière, si vous me permettez d'évoquer quelques souvenirs strictement personnels.
Avec grand plaisir.
D'évoquer la mémoire de Fouché, j'ai commencé ma carrière archéologique par l'école d'Athènes. Puis, je suis allé à l'Institut français d'archéologie de Beyrouth, où j'ai travaillé à la fois un peu au Liban, mais surtout en Turquie à cette époque-là. Et puis, à ce moment-là, on m'a demandé si je voulais prendre la succession de Daniel Schomberger, qui était directeur de la délégation archéologique française en Afghanistan. Et je suis allé fouiller avec lui pendant 2 ans, et j'ai décidé qu'effectivement, j'aimerais faire une carrière de fouilleur, de chercheur là-bas, d'autant que c'est précisément le moment où on allait, où on venait de découvrir en Afghanistan les restes de la présence grecque, longtemps cherchés en vain par Alfred Fouché, ce qui fournit une transition à
tout
ce
trouvé.
Qui va suivre.
Justement, dans quelles conditions Alfred Fouché est-il parti en Afghanistan? D'ailleurs, pourquoi le missionne-t-on à cet endroit alors qu'il était plutôt spécialiste de l'Inde? Qui l'envoie?
Qu'il envoie, comme toujours, à l'étranger, c'est le gouvernement français, mais là, ça a été tout à fait inattendu. C'est une sorte de cadeau que l'Afghanistan, qui s'éveillait moderne, a fait à la France. L'Afghanistan, sous la houlette du roi Amanullah, avait décidé de se moderniser, d'entrer dans l'ère de la modernité, et il lui fallait des conseillers européens. Ça ne pouvait être ni les Britanniques, qui avaient un lourd contentieux avec l'Afghanistan, ni les Russes, qui, eux aussi, avaient lorgné sur l'Afghanistan et essayé de le réduire à l'état d'état vassal. Et tout naturellement, on était dans les années 1920, l'Afghanistan s'est tourné vers la France, qui était une grande puissance à ce moment-là, et a proposé au gouvernement français de lui envoyer des experts pour, comme a dit la convention que nous avons signée avec le gouvernement afghan, exploiter les richesses archéologiques de l'Afghanistan. C'est donc, je dirais, à brûle pour point que le gouvernement français s'est vu offert d'envoyer des experts archéologues en Afghanistan pour y fouiller la première fois, d'abord faire des prospections, explorer le pays et ouvrir des fouilles sur ce pays que la situation politique avait maintenu fermé, bouclé pendant des siècles et non pas de simples décennies.
Et qu'espérait-on trouver comme vestiges archéologiques? De quelles époques?
L'Afghanistan a été occupé par différents régimes, par différents empires, mais évidemment, l'Europe était surtout intéressée, la France au premier chef, par ce que l'on savait grâce à des textes d'historiens anciens, grecs et latins, que l'Afghanistan, et notamment le nord de l'Afghanistan, qui s'appelle la Bactriane, avait été le siège d'un grand empire grec fondé par des colons qu'avait laissé Alexandre, donc à l'issue de sa conquête de l'Asie centrale et de l'Afghanistan en particulier, en 329-327 avant Jésus-Christ. Et il avait laissé là un certain nombre de vétérans qui ne pouvaient plus suivre l'armée et qui ont été chargés par lui et surtout par ses successeurs, car lui n'a fait que passer 2 ans en Afghanistan, mais ses successeurs sont restés très longtemps. Si bien que ces colons, d'abord attachés à un empire grec du Proche-Orient qui s'appelait l'empire Séleucide, parce qu'il avait été fondé par un compagnon d'Alexandre qui s'appelait Séleucos, ces colonies, au bout d'une cinquantaine d'années, un peu plus, se sont érigées en empire indépendant, c'est-à-dire ont rompu les liens de vassalité qui les rattachait à cet empire grec du Proche-Orient, dont les capitales étaient dans la Syrie actuelle, en Antioche, et puis également en Irak, dans la vallée de l'Euphrate, à Séleucide de Mésopotamie. Si bien que cet empire grec, dont les élites étaient grecques, c'était en fait des militaires, c'est un peu comme la colonisation française, oui, en Algérie. Ces Grecs qui étaient là ont tenu le pays, donc de 300 avant notre ère, jusqu'aux environs de 100 avant notre ère, 2 siècles, pas plus, au nord de Kaboul. Mais au sud de Kaboul, dans ce qui est le sud de l'Afghanistan aujourd'hui et le Pakistan, là, ces pays qui avaient été conquis par les Grecs du Nord, qui est le cœur de l'Empire à l'origine, le sud de l'Afghanistan est resté aux mains de colons grecs pendant plus longtemps, jusque dans les premières années de notre ère. Donc, en gros, on a affaire à un empire grec, mais qui est aussi un centre culturel, un centre de culture puissante, et fidèle et original en même temps aux traditions du pays dont viennent ces colons, qui durent pendant 3 siècles.
Donc, dans ce nord de l'Afghanistan, cette mythique cité de Bactre, c'est la mission d'Alfred Fouché d'aller essayer de la retrouver.
Et donc, les souvenirs de ce grand empire grec avaient été transmis par un certain nombre de textes d'auteurs anciens, d'historiens. Et évidemment, la première tâche qu'on a fixée à Fouché, c'était de retrouver la trace de cette, j'allais dire, Babylone, rivale de Babylone, en tout cas, cette Bactre, qui avait été effectivement une grande capitale, mais avant même l'arrivée des Grecs, et qu'il resta encore après.
Est-ce que Marco Polo l'évoque lui aussi?
Alors, Marco Polo est passé par Bactre, c'est sous le nom de Balkh, qui est le nom local.
B-A-K-L.
A-A-L-K-H, Balkh, ou un X, si on veut. Et oui, il y a un certain nombre de voyageurs, évidemment, il n'est pas le seul, et même des voyageurs islamiques, plus anciens que lui, qui parlent de Bactre, mais c'est une ville qui a été plus que millénaire, elle remonte certainement au minimum au 3e millénaire avant Jésus-Christ, mais c'est une ville qui a été beaucoup détruite, à plusieurs reprises détruite, ravagée, reconstruite, et notamment le coup fatal, bien qu'elle y ait survécu, mais avec une vie restreinte, a été détruite par Gengis Khan en 1220. Et les destructions de la conquête mongole ont été fatales à un certain nombre de grandes villes, notamment à Bactre.
Alors, quand Alfred Fouché arrive à Bactre en Afghanistan, comment trouve-t-il le site archéologique? Dans quel état?
Mais vous savez, on voit quelques monuments islamiques.
Un minaret.
Qui sont dits d'intérêt, oui. Il y a une grande place avec 2 grands monuments couverts de faïences colorées d'époque timouride et ouzbek du 15e, 16e siècle. Mais ce n'est pas pour ça qu'on avait envoyé Fouché. Mais les monuments de l'époque antique, c'est-à-dire de l'époque contemporaine de cette occupation de la colonisation grecque, on n'en voit rien. Ça n'est pas du tout Palmyre où, avant même toute fouille, le sol était jonché de tambours de colonnes, de chapiteaux, où on voyait des restes de murs en pierre, parce que, tout simplement, en Asie centrale, et déjà au Proche-Orient, à partir de la Mésopotamie, l'architecture est une architecture de briques crues. Tous les murs sont en briques séchées au soleil.
Donc très fragile.
Donc très fragile. Dès que l'enduit, qu'on est obligé de renouveler tous les ans, disparaît quand il n'est pas entretenu, la brique fond sous la pluie, et retourne à son état naturel de terre. Donc très vite, ces grandes constructions, si monumentales soient-elles, produisent des sortes de monticules de terre où, en profondeur, il peut rester quelque chose, mais pas toujours. De plus, quand on a affaire à une architecture de briques crues qui retourne avec le temps les dommages, les dégâts et les destructions à l'état de terre, puisque c'est du loess dans cette région du monde, on reconstruit sur place en faisant les briques
de
la même façon, à l'endroit même où se trouvaient les ruines des anciens bâtiments.
Ça veut dire qu'il faut creuser très profond pour trouver quelque chose d'époque.
C'est-à-dire que les couches qui se superposent sont les unes sur les autres, très proches les unes des autres, puisqu'on réutilise en quelque sorte la terre des murs de la ville précédente pour en construire une nouvelle. Donc, la terre s'accumule malgré tout, parce qu'on va en chercher ailleurs aussi, mais ce que vous voyez quand vous arrivez dans ces pays-là, ce sont des monticules de terre. Foucher
c'est
le
pas
Dutré.
Du tout spectaculaire, comme ça un palmier ou au Liban.
C'est absolument pas spectaculaire. Pour un archéologue qui a l'habitude de ce genre d'archéologie et de ruines, il devine tout de suite que sous ces monticules peuvent se cacher des restes impressionnants de grands bâtiments. En tout cas, vous ne savez jamais ce que vous allez trouver quand vous allez ouvrir une fouille sur ce qu'on appelle un tépé, c'est-à-dire un tel. Donc, Proche-Orient parle de tel, hein, ce sont les collines de terre produites par la décomposition des bâtiments de briques crues. En Asie centrale, on parle de tépé.
Absolument. Et donc, Alfred Fouché va commencer à creuser. A-t-il une équipe très nombreuse ?
Non,
il a des moyens ?
Non, alors vous savez, ça a toujours été comme ça chez nous en France. Quand on relit les lettres de Fouché qu'il envoyait à ses correspondants à Paris, quand on relit le grand livre qu'il a écrit où il a consigné son expérience de fouilleur à Bactre et aussi de prospecteur de l'Afghanistan et de l'Inde du Nord-Ouest, et par ailleurs un livre tout à fait admirable.
La vieille route de l'Inde, paru en 1942
pour le premier volume et en 1956, je crois, pour le second. Ces gens-là ont travaillé avec des moyens tout à fait insuffisants. Fouché a fouillé à Bactre. Il était seul.
Était-il vraiment archéologue de formation ou pas à l'époque.
Fouché était un indianiste, comme vous l'avez dit, de renom, spécialiste de la civilisation indienne et de la littérature indienne bouddhique, notamment. Il a écrit Une vie de Bouddha, qui est célèbre, et de nombreux articles sur la littérature bouddhique. C'était un historien de l'art qui s'est intéressé, disons, aux monuments de l'époque bouddhique, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui l'art du Gandhara ou l'art gréco-bouddhique, qui est l'art qui est composé de monuments, de peintures et de sculptures qui décoraient à la fois les monastères bouddhistes et les stupas, c'est-à-dire les monuments religieux que vénéraient les bouddhistes et autour desquels ils faisaient des processions. Et ces stupas étaient décorés de statues qui pouvaient être en pierre, il pouvait même y avoir des portiques à l'intérieur des monastères qui étaient décorés de colonnes en pierre, car tout à l'heure j'ai dit que cette architecture était en briques crues, mais j'aurais dû aller plus loin et dire que tout ce qui était décor, autant que possible, était fait en pierre, c'est-à-dire les colonnes étaient en pierre avec les chapiteaux et éventuellement les bas-reliefs. Mais il se trouve que dans l'architecture bouddhique, le décor très riche de bas-reliefs est fait soit en pierre, soit en argile crue ou en stuc. Et donc Fouché, dans un second ouvrage tout aussi célèbre que La vieille route de l'Inde et qui a été sa thèse et qui s'appelle L'art gréco-bouddhique du Gandhara, a étudié tous ces monuments bouddhiques de la région, pour simplifier, je dirais, la région du Pakistan dont on parle aujourd'hui, le Nord-Ouest. Là où se trouvent les talibans, ça a été une grande terre du bouddhisme avec une richesse incroyable de monastères et de monuments. Et donc, il a fait une thèse célèbre en plusieurs volumes sur le décor de ces monuments que les archéologues anglais et les officiers anglais qui étaient là, qui étaient à la fois archéologues et officiers souvent, ou pourvoyeurs de collections privées, avaient fouillé, dégagé en partie. Il a donc travaillé beaucoup, avant de venir en Afghanistan, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le gouvernement français l'a chargé de venir en Afghanistan, c'est qu'il connaissait très bien ce pays, il en avait étudié les monuments bouddhiques, disons, des 4-5 premiers siècles de notre ère, et la frontière politique entre le Pakistan et l'Afghanistan n'est pas une frontière culturelle, elle ne l'est pas ethniquement non plus. Les Pashtuns et les Talibans sont de part et d'autre de la même frontière. Ces monuments qu'il avait étudiés, ce qui était une province, la province du nord-ouest de l'Inde britannique, se continuaient du côté de l'Afghanistan jusqu'à Kaboul et même au-delà de la grande dorsale de montagne qui coupe d'est en ouest l'Afghanistan en deux, qui s'appelle l'Hindoukouche. Au nord de l'Hindoukouche, à Bactre, il y a, on le sait par les textes, et il en a fouillé un, malheureusement sans décor, celui-là, un stupa bouddhique monumental.
Avec Paul Bernard, nous évoquons le parcours archéologique d'Alfred Fouché de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. On se retrouve dans un très court instant.
Les avancées dans la recherche médicale et les espoirs thérapeutiques de demain, Canal Academy vous propose une douzaine d'émissions sur ce thème. Quand l'imagerie médicale permet de lutter contre le cancer, quand la technique satellitaire peut servir à guérir en Afrique, quand la chirurgie appose une greffe sur un visage, mais aussi quand les médecins et les philosophes s'interrogent sur le clonage thérapeutique et la bioéthique. Soyez à la pointe des dernières découvertes et avancées médicales grâce au travail de diffusion du savoir par l'Académie des sciences.
Nous retrouvons Paul Bernard de l'Académie des inscriptions et belles-lettres pour évoquer les travaux, les fouilles archéologiques d'Alfred Fouché. Finalement, qu'a-t-il trouvé dans ce qu'il pensait être Bactre ? Est-ce que c'était Bactre ?
Alors,
on a envie de savoir.
Sans la seule chose sur laquelle il n'y avait aucun doute, ni pour lui ni pour les autres, c'était que Balkh était bien la Bactre ancienne, c'est-à-dire le nom tel que l'écrivaient les historiens grecs et latins. Parce que, entre Balkh et Bactre, philologiquement, c'est la même chose. C'est la même racine, évidemment. Donc, aucun doute à avoir là-dessus. Mais quand il est arrivé, déjà, il savait par les voyageurs qui étaient passés, par Marco Polo.
Par bien d'autres
aussi. Notamment des voyageurs de l'époque islamique, des voyageurs chinois qui étaient passés, notamment l'un d'entre eux, le plus célèbre d'entre eux, au 7e siècle, Xuan Zang, qui a été, je dirais, le maître en bouddhisme d'Alfred Fouché. Alfred Fouché, en fait, qu'est-ce que c'est que la vieille route de l'Inde ? C'est Fouché qui suit à la trace, pas à pas, son maître Xuan Zang, qui est un moine bouddhique, qui vient de Chine et qui va en Inde, en traversant l'Afghanistan, pour se procurer des manuscrits, des œuvres du bouddhisme.
Béni soient les moines et béni soient les voyageurs pour les archéologues. Je pense que c'est...
Ce n'est pas le seul endroit où les moines ont eu un effet bénéfique sur la culture, comme vous savez.
Donc, Alfred Fouché, je crois, vous l'avez dit, travaille dans des conditions difficiles.
Il est seul,
son épouse, néanmoins.
Avec sa jeune épouse, très énergique, qui l'a beaucoup aidé, qui a même appris le persan et qui lui servait d'interprète. Je pense, malheureusement, c'est des choses sur lesquelles les gens de sa génération n'aimaient pas beaucoup faire de confessions. Sa vie privée, son épouse, Madame Germaine Bazin Fouché, était plus jeune que lui. C'était une de ses étudiantes, ses anciennes étudiantes. Elle l'a beaucoup aidé. Ce n'étaient pas les premiers Européens à traverser Bactre, mais c'était en tout cas les premiers Européens à y vivre de façon prolongée. Ils ont passé presque 2 ans à Bactre dans des conditions épouvantables. En plus, Bactre est un endroit qui est très malsain en raison des marécages qui entourent la ville.
Ils risquaient d'attraper des fièvres.
Mais ils les ont attrapés, ils ont failli en mourir, et l'un et l'autre. Ils ont fait preuve de beaucoup d'énergie. Elle, par exemple, secondait son mari à la fois pour la tenue du camp, c'est évidemment essentiel, mais aussi sur la fouille, elle l'aidait sur la fouille également. Alors, vous m'avez dit quelle avait été la carrière de Fouché. Il avait fait un relevé de ses monuments bouddhiques dans la région, disons pour simplifier, de Peshawar et Taxila, en étudiant tout ce qui avait été ramené des sites dans les musées également, non seulement l'emplacement des monuments, bien entendu, mais il n'avait pas une véritable formation d'archéologue, c'est-à-dire il n'avait pas fouillé. Donc, il est arrivé avec un handicap dont probablement il n'était pas véritablement conscient, parce que quand on voit un monument, c'était le cas dans la région de Peshawar. À Peshawar, les stupas bouddhiques sont construits, et les monastères en briques crues aussi, mais les stupas ont un revêtement de pierre taillée. Si bien qu'ils sont relativement bien conservés et ils se voient. Lorsqu'on se trouve à Peshawar et qu'on se dirige vers le piémont des montagnes qui cernent la plaine, c'est là que se trouve, ça n'était jamais dans les villes même, c'était en dehors des villes et sur les piémonts des montagnes. Les sanctuaires bouddhiques sont là, vous les voyez, c'est pour ça qu'il avait pu les étudier. Quand il est arrivé à Bactre, tout ce qu'il a vu, c'est une mer de lœss avec des monticules qui, partout, la parsemaient, où les monuments bouddhiques eux-mêmes étaient devenus des tépés, des monticules de lœss. Et d'après en étudiant les auteurs, notamment Xuan Zang, qui avait donné une description de Bactre au 7e siècle, ce moine bouddhique est passé à Bactre en 620, il a réussi à identifier un endroit, une grosse colline de terre dont il a pu penser que c'était un stupa. Il l'a fouillé, effectivement, il ne s'était pas trompé. Mais lui-même, d'ailleurs, en est venu à douter que les Grecs n'aient jamais rien construit là. Là, il se trompait vraiment.
Oui, dans votre communication à l'Académie, vous avez dit cette phrase que vous citiez d'Alfred Fouché, « La Bactriane doit abandonner la prétention du berceau de l'art gréco-bouddhique. »
Oui, il faudrait peut-être nuancer. En tout cas, on lui a demandé d'aller chercher, non pas des stupas remontant au 2e ou au 3e siècle de notre ère, à Bactre, mais la ville des colons grecs.
Alors, l'a-t-il trouvé ?
Oui, le site est immense. Ah, vous avez
une muraille qui fait
10 km de long. Donc, c'est énorme. D'autre part, on ne voit pas de reste visible. Tout ce qu'on voit, c'est un moutonnement de collines à l'intérieur de ces remparts, de tertres. Et il a choisi l'endroit qui était certainement le plus difficile à fouiller, à savoir l'acropole, c'est-à-dire la citadelle. Il s'est dit justement que tous les régimes avaient dû occuper la citadelle pour tenir le pays. Et que par conséquent, c'est l'endroit où on allait nécessairement trouver les restes de tous, depuis les plus anciens jusqu'aux plus récents. C'était sans tenir compte des destructions colossales de la conquête mongole et également des reconstructions qui ont eu lieu après dans cette partie du site, l'acropole qu'on appelle localement le Balaïssar. C'est un terme persan pour dire la forteresse. Et il a fait une énorme tranchée qui s'est enfoncée d'une quinzaine de mètres sans trouver le moindre morceau de pierre. Car évidemment, il était un peu victime de cette vision qu'il tirait de ces villes syriennes qu'il connaissait pour les avoir visitées, les ruines se signalent par de la pierre. Il s'est enfoncé dans des masses de décombres où il a certainement traversé sans s'en apercevoir des constructions en briques crues parce qu'il n'était pas archéologue, qu'il n'avait jamais fait ce genre de fouille, et sans trouver aucun reste de monuments en pierre, de colonnes en pierre ou de chapiteaux en pierre.
Néanmoins, est-ce qu'il a trouvé des escaliers, des galeries ?
Rien. Il a trouvé presque jusqu'au fond de la céramique islamique, car après la conquête islamique, après le 8e siècle, Bactre a été occupé par l'islam et sous ses différentes formes, sans discontinuité. Il aurait fallu faire une fouille beaucoup plus fine pour essayer de trouver, non pas ce qu'il espérait, de la pierre taillée sous forme de colonne ou de chapiteau, mais des morceaux de céramique, qui aujourd'hui sont parlants pour nous, mais qui ne pouvaient pas l'être pour lui de toute façon, parce que pour pouvoir dater un morceau de céramique, il faut avoir une histoire de la céramique. Et personne n'avait jamais fouillé en Afghanistan, et très peu sauf dans l'Inde, mais là, la céramique est tout à fait différente dans les pays voisins.
On peut dire qu'Alfred Fouché est le premier archéologue français, en tout cas, en Afghanistan.
C'est sa définition. C'est le premier archéologue en Afghanistan, non seulement français, mais archéologue tout court.
Et après, vous avez évoqué Daniel Schlumberger. Était-il membre de l'Académie ?
Oui, bien sûr. Donc, Fouché, ça a été un échec épuisant pour lui, le seul échec de sa carrière, mais qui l'a beaucoup blessé. Car on l'avait chargé d'une tâche impossible, même s'il y avait eu des restes de monuments grecs un peu plus visibles, je ne suis pas sûr qu'il aurait vraiment compris ce qu'il aurait pu trouver, parce qu'il était sans expérience archéologique. C'était un historien de l'art. Et c'est quand même
c'est deux métiers différents.
C'est des métiers qui s'épaulent, mais ce sont des spécialités différentes malgré tout. Et il a écrit ce livre célèbre, « La vieille route de l'Inde », pour raconter son échec à l'acropole de Bactre, au Balaïssar de Bactre. Et surtout, s'il s'était arrêté là pour dire « j'ai échoué à la tâche qu'on m'avait confiée », celle de trouver les restes de la civilisation grecque de l'Asie centrale dans la grande capitale de cette région, que je n'ai pas trouvé, ça aurait été un moindre mal. Mais c'est que, bon, par souci de rationalisation, c'est normal, il s'est persuadé que s'il n'avait rien trouvé, c'est qu'il n'y avait rien à trouver. Et que, après tout, ces Grecs, c'était des colons, mais c'était des descendants de soldats, de mercenaires.
Donc, ils n'avaient rien bâti.
Ils n'avaient rien bâti. Le pays lui-même était, comme il le dit, sans frontières naturelles. C'est vrai que c'est un couloir de passage. Oui, mais la vallée du Rhin aussi. Ça n'empêche pas que dans la vallée du Rhin, vous avez eu de grandes civilisations qui se sont succédées les unes aux autres, au moins depuis Charlemagne. C'est pas parce qu'un pays est ouvert qu'il n'a pas de personnalité historique. Simplement, au contraire, on peut dire que peut-être il profite de tout ce qui lui vient de l'extérieur parce que les gens sont obligés de passer par là. Et au contraire, pour lui, ça a été un argument négatif. Donc, pas de frontières naturelles. Donc, pas de personnalité bactrienne, hein, pas de grec, une soldatesque, des mercenaires, presque des soudards, qui faisaient venir des graveurs de monnaie parce qu'on savait qu'on avait trouvé des monnaies grecques, belles. D'ailleurs, lui n'en a pas trouvé en fouille parce que les belles monnaies grecques, ça se trouve dans des trésors qu'on trouve par hasard, je dirais. Mais enfin, bon, il les connaissait, ils étaient déjà dans les musées, il en a conclu que, bon, d'accord, ces monnaies étaient très belles, mais elles avaient été frappées, dessinées, puis imprimées sur des pastilles de métal, de l'argent ou de l'or, par des artistes graveurs en médaille qu'on avait fait venir des terres grecques, de la Méditerranée.
On reconnaît à vos propos le spécialiste de la numismatique que vous êtes.
Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup les monnaies aussi. Et donc, conclusion négative, c'est un pays qui n'a jamais eu de personnalité ni véritablement historique, ni véritablement culturelle. Ce qui est une erreur absolument colossale.
Et ce constat d'échec a bloqué la recherche après.
Oui, alors Fouché, donc, est rentré en France en 1925, il a passé un an et demi à fouiller à Bactre, et puis il est resté directeur de la DAFA, et pendant ce temps, ses adjoints, dont Joseph Aquin et d'autres, ont fait des fouilles, alors non plus sur les monuments grecs qui, pensaient Fouché, n'existaient pas, mais sur les monuments bouddhiques. Ces fameux monuments bouddhiques que Fouché aurait beaucoup aimé fouiller lui-même, mais qu'on lui avait interdit de fouiller en lui disant « non, il faut aller au nord, à Bactre, et non pas rester dans la campagne autour de Kaboul, ne serait-ce que là, ou Jalalabad ». Évidemment, ses collaborateurs ont trouvé de magnifiques monuments bouddhiques, et le résultat de ces fouilles, c'est la collection afghane du musée Guimet, l'autre moitié se trouvant au musée de Kaboul. Schlumberger, après la Seconde Guerre mondiale, qui avait interrompu les travaux en Afghanistan entre 1940 et 1946, Schlumberger, lui, était un archéologue, il était agrégé de l'université, d'une grande famille bourgeoise, alsacienne, comme tous les gens de son époque d'ailleurs, avec une formation classique très solide.
Solide, oui.
Et il est allé travailler en Syrie au mandat français, où il y avait là, on avait créé un institut d'archéologie en Syrie, avait créé à la demande des responsables du mandat français au Levant, une école d'archéologie. Il a été l'assistant de Syrie. Il a travaillé à Palmyre, justement, au Berger. Il a même fait sa thèse sur des monuments de la campagne de Palmyre, de la région de Palmyre. Et son séjour en Syrie a renforcé sa formation classique. Si bien que quand il a été nommé en Afghanistan, à la succession de Fouché, qu'il a eu d'ailleurs quand il est parti en Afghanistan en 1946, Fouché vivait encore, il est allé lui rendre visite, il avait une grande estime pour Fouché, malgré les conclusions négatives de la vieille route de l'Inde. Il est resté persuadé que, effectivement, la tâche première, c'est ce qu'il a écrit à Paris. Paris qui était tout à fait ravi de recevoir un rapport écrit dans cet esprit. Schomberger est arrivé à Kaboul, il est allé faire immédiatement une prospection dans le nord de l'Afghanistan, notamment à Bagdad, et il est rentré en disant « la mission première de la DAFAD reste la découverte des monuments grecs ». Il lui était persuadé que ce grand empire dont des historiens grecs avaient parlé n'ait pu laisser aucune trace. Ça n'était pas possible. Et il a fait une première campagne de sondage, simplement des sondages, pour essayer de trouver ailleurs qu'au Balaïssa des traces de la présence grecque. Ça s'est soldé par un échec. Mais nous savons aujourd'hui qu'il est passé tout près. Donc Bactre, on a abandonné le projet de trouver quoi que ce soit à Bactre, qui est un site immense, difficile à fouiller, avec un alluvionnement considérable, des anciennes rivières, des anciens canaux. Et finalement, il a donc fouillé autre chose, et notamment il a fouillé un site en Bactriane aussi, à 100 km de Bactre, plus à l'ouest, sur Kotal, qui était un site qui représentait un sanctuaire de la grande dynastie Kushan, qui à l'origine est une tribu. Les Kushans, c'est une tribu qui vient du Turkestan chinois, puis qui s'installe, se sédentarise en Asie centrale, en chassant les derniers Grecs. Donc les Kushans sont les successeurs des Grecs en Bactriane. Schomberger fouille un monument Kushan, un monument qui date, on le sait aujourd'hui, de 125 de notre ère à peu près. Et il fouille là un monument avec un temple dynastique probablement, avec un décor de colonnes et de frises qui manifestent des influences hellénistique, grec, tout à fait évident, tout à fait évidente. Et il publie ce monument et écrit un article célèbre dans la revue Syria qu'il appelle « Les descendants non méditerranéens de l'art grec
oui, ».
Il dit, vous voyez les statues des rois de Bactriane, il y avait également des monuments bouddhiques dans la région, vous voyez surtout ces bases de colonnes, ces fûts de colonnes. Ce sont des monuments visiblement influencés directement par l'art grec. Et cela veut dire que ces influences ne sont pas venues de très loin, elles sont là sur place. C'est la preuve que ce que Fouché n'a pas trouvé, ni moi non plus une première fois, existe. Et donc, il a relancé, malgré son premier échec, mais grâce à cette découverte en quelque sorte providentielle, qu'il a mise sur la piste d'un monument qui trahissait de façon évidente la réalité d'une civilisation grecque qui avait laissé des traces, des descendants non méditerranéens, c'est-à-dire d'un hellénisme d'Asie centrale. Donc, il avait administré la preuve qu'il y avait certainement un foyer de culture grecque de l'époque hellénistique, des descendants directs d'Alexandre, qu'il fallait simplement trouver. Il se trouve qu'on a trouvé les premières traces de la présence grecque en Bactriane, non pas à Bactre, mais dans un autre endroit qui s'appelle Aigranum. C'est-à-dire
vous avez vous-même beaucoup travaillé.
Que j'ai eu la chance de pouvoir fouiller. Et la découverte d'Aigranum, d'ailleurs, est due en grande partie à Daniel Schomberger. Bon, c'est lui qui s'est acharné, il y a eu un coup de pouce du hasard qui fait que on a trouvé fortuitement un chapiteau corinthien. Vous avez à l'institut, ils sont d'origine grecque évidemment, lointainement, et il a pu, avec beaucoup de difficultés, l'année même où il quittait son poste à Kaboul pour prendre la succession de son ami Henri Seyrig à la direction de l'Institut de Beyrouth, il a pu avoir l'autorisation d'aller visiter le site où ce chapiteau avait été trouvé. Et c'était à Hiranoum.
À Hiranoum, cette métropole grecque fut découverte en 1964. Et bien sûr, notre invité Paul Bernard appartenait à cette équipe d'archéologues français. Mais hélas, de tout ce qui a été dégagé après 1978, il n'est rien resté. En 1982, les Afghans communistes ont exigé le départ de la délégation archéologique française en Afghanistan, puis les fouilles ont été laissées sans protection et même pillées. Le site fut ravagé. Nous retrouverons Paul Bernard dans une autre émission pour relater cet autre volet de l'histoire de la présence hellénique en Afghanistan. Merci à Paul Bernard de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de nous avoir dressé le portrait de ses deux confrères et prédécesseurs, deux grands archéologues français, Alfred Fouché et Daniel Schlumberger.